RTL l'équipe. Carrément vélo, Emmanuel Barre.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL l'équipe, c'est un plaisir de vous retrouver 11h30, 12h30, c'est Carrément Vélo, toute l'actu disséquée, analysée par nos spécialistes. Au programme évidemment, le Dauphiné prologue remporté hier par Lars Boom, le néerlandais réel spécialiste des prologues, le premier français Blel Kadri se classe à la 5e position. Au programme également, le Tour du Luxembourg remporté par Linus Gerdemann, l'Allemand qui a signalé également la victoire d'étape hier, celle de Romain Feuillu, le sprinter de la formation Vacances Soleil. Et sachez qu'en deuxième partie d'émission, Aurélien Passeron sera en ligne avec nous. Il porte désormais les couleurs d'une équipe coréenne et court à nouveau en France. L'occasion évidemment de prendre de ses nouvelles. C'est Carrément Vélo, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30.
RTL l'équipe, Carrément Vélo.
Allez, je vous rappelle, comme tous les lundis d'ailleurs, que vous pouvez réagir à l'émission, poser une question à nos spécialistes, bien sûr, direction la page Facebook du Carrément Vélo. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast. Attention, peut-être une émission collector. Vous allez sur RTL.fr, vous cliquez sur podcast. Avec nous, bien sûr, tout au long de cette émission, Frédéric Millet du Cycle. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Pierre Salviac est avec nous. Salut Pierrot.
Salut à tous. Je suis très content de vous avoir accompagné tout ce premier semestre.
Oui. On n'est pas sûr de poursuivre l'aventure, mais on va y venir bien sûr d'ici quelques secondes. Nicolas Pertu de Vélo Magazine est avec nous. Bonjour Nicolas. Allez, on va évidemment parler vélo tout au long de cette émission. On va revenir sur l'actualité simplement pour vous préciser, puisque évidemment vous le savez, quelques informations d'ores et déjà fuitées. Vous avez été d'ailleurs plusieurs à réagir sur le Facebook, à envoyer des mails également. Et même si pour l'instant, on est dans l'incapacité de vous donner, bien sûr, cette information, à savoir que c'est peut-être l'arrêt de cette émission, un bon conseil, profitez-en tout de même, parce qu'il se peut, c'est bien possible que ce soit la dernière. Donc on va tout de même garder le sourire, évidemment, débattre de l'actualité vélo avec nos spécialistes. Et on va débuter par le Dauphiné libéré. Nicolas Pertuis, victoire de Lars Boom. On rappelle qu'il avait déjà remporté le prologue de Paris-Nice. Décidément, c'est un vrai spécialiste.
Oui, après Cancellara, on va croire que c'est le deuxième spécialiste mondial du prologue.
Oui, hein, le deuxième.
Le deuxième.
Mais derrière Cancellara.
Ouais, je pense que Cancellara reste the spécialiste.
The spécialiste. Ce Dauphiné, ça vous intéresse?
Bah, particulièrement, ouais, parce que... Alors, faut le prendre à double niveau, le Dauphiné, parce que il y a ceux qui visent une place sur la course, et puis il y a ceux qui préparent le tour. Donc, il y a une double lecture à faire entre des coureurs comme Brajkovic, qui cette année ne viennent pas pour gagner, mais préparer le tour. Des coureurs comme Coppel aussi, qui sont là pour monter en pression pour le Tour de France. Donc, il y a une double lecture à faire et ne pas se tromper par rapport à ça.
Pierre Salviac est avec nous, Pierre.
Salut. Alors, qu'est-ce que je dise? Tu veux que je dise que j'aime le Dauphiné? Oui. Tu veux que je te parle du prologue? Ça m'intéresse pas, parce que je trouve le prologue, c'est aussi con que les départs en côte. Je vois pas l'intérêt d'un prologue, personnellement. Je trouve que c'est trop court, ça donne pas d'indication. Et en général, ceux qui s'imposent sur les prologues ne sont pas nécessairement des grands champions.
En plus, c'est l'occasion de distribuer les maillots, tout de même, non?
Oui, mais tu peux les distribuer autrement. Moi, je trouverais de toute façon tout à fait normal qu'au départ d'une course, il n'y ait pas de maillot. Puisqu'il s'agit de gagner des maillots. Donc je vois pas pourquoi on va le donner, a priori.
On le donne pas, on va le chercher quand même au travers d'une victoire.
Non, à travers d'une étape qui n'en est pas une.
Nicolas Pertuis.
Je suis d'accord avec Pierre, parce que le prologue, ça fait partie de la culture cycliste. C'est une épreuve à part entière.
Ça a été inventé il y a pas longtemps. Attends, on me raconte pas d'histoire. Quand j'ai commencé dans ce métier.
Depuis que je suis môme, j'ai vu des prologues.
Eh ben moi, depuis que j'ai commencé dans ce métier.
Ça fait au moins 30 ans qu'il y a des prologues.
Oui, bah pour ramasser un peu d'oseille. Point barre. Mais avant, ouais, ça n'existait pas, le prologue.
Mais ça permet à des coureurs de s'illustrer, et puis ça permet à des coureurs de mettre en évidence des qualités physiques peut-être différentes d'un chrono qui est plus long. Différente d'un sprint, d'une victoire au sprint, différente d'une victoire en montagne, c'est différent, voilà.
Frédéric Millet.
Oui, c'est différent.
Oui, c'est vrai que le prologue, moi je l'ai pas regardé parce que
ça t'emmerde.
Ça a pas un super intérêt. Par contre, je vais regarder l'étape d'aujourd'hui qui se termine en boss.
Ouais.
Et j'ai vu effectivement que le prologue d'hier, pour revenir sur ce que disait Pierre, c'est ils ont attribué un maillot de meilleur grimpeur à Sébastien Hinault,
oui,
parce qu'il faisait un temps intermédiaire dans la bosse.
Ouais.
Donc lui a été le plus malin, il s'est dit bon, bah, je vais pouvoir prendre le maillot de meilleur grimpeur. Il a fait le prologue, il a fait comme si ça s'arrêtait en haut de la bosse.
C'est pas Dumoulin qui a tweeté pour dire qu'il a fait que ça aussi?
Oui, il a fait que ça, oui.
Ouais, tu te rends compte, non, bah, ça devient n'importe quoi.
D'ailleurs, moi j'ai répondu à ce tweet, parce que c'est vrai que démarrer au pied de la bosse pour espérer aller décrocher et finalement terminer...
Troisième.
Qu'est-ce que vous racontez? Il termine dernier du chrono. Il termine dernier du chrono. Il termine dernier du chrono. Mais troisième au sommet de la bosse.
Troisième de la bosse, oui.
Non, pas troisième. Il se loupe pour trois secondes.
Avant-dernier.
Avant-dernier du chrono.
C'est Mallory le dernier.
Vous êtes sûr?
Il dit dans le tweet, il dit qu'il termine dernier, mais il dit qu'il fait la bosse pour le maillot.
Si jamais il nous écoute.
Si tu nous écoutes, Sam.
Qu'il n'hésite pas à réagir.
Et s'il abandonne avant la fin, tu nous le dis tout de suite.
Ça, c'est une sacrée perf.
Non, mais c'est la démonstration. Je suis désolé, Nico. C'est bien la démonstration
que c'est n'importe quoi. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre Salvec sur ce coup-là.
Pour en revenir au Dauphiné, moi, je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'ai lu qu'un coureur disait que Cadel Evans l'avait fait à fond il y a 2 ans, avait terminé seulement deuxième du Dauphiné et avait loupé son tour. Mais j'ai vu aussi que 3 ans auparavant, il avait terminé deuxième du Dauphiné, mais il avait terminé deuxième du tour. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un Dauphiné à fond qu'on se crame forcément pour le tour.
D'accord.
Même si Cadel Evans, on a vu qu'une année ça a marché, l'autre année ça a moins bien marché.
C'est une super répète, le Dauphiné pour le tour.
Pierre Salvec.
Enfin, il me semble, peut-être que les choses ont changé parce que tout change, il paraît dans le vélo maintenant. Mais il me semble qu'il y a une époque, quand tu faisais un bon Dauphiné, tu tenais au moins la garantie de faire un bon Tour de France. Si maintenant on me dit que le Dauphiné crame les coureurs.
Non.
Nicolas Perpi.
Mais c'est ce que je disais, il y a une double lecture. Prenez un coureur comme Brajkovic qui gagne le Dauphiné l'année dernière. Brajkovic, il n'a pas le moteur d'un Contador. Il n'a pas le moteur d'un Cadel Evans. Et en cela, il ne peut pas tenir 4 semaines de plus pour arriver à la 3e semaine du Tour au même niveau.
C'est donc un coureur
mais c'est
par
pas
étape.
Ça, mais...
Un petit coureur par étape, ce n'est pas un grand champion, c'est ça que vous voulez nous dire.
Rappelez-vous de Christophe Moreau quand il gagne le Dauphiné. Il pète au bout de 10 jours de course.
C'est vrai.
Il y a des coureurs... Qui n'ont pas la caisse, moi j'aime pas trop ces expressions, mais je crois que ça vient bien là, qui n'ont pas la caisse, pour être comme un Alberto Contador à 90% de sa condition et quand même gagner le Dauphiné, et passer ensuite à encore un niveau au-dessus pour remporter le Tour de France.
Mais ça peut poser aussi le problème de. Il n'y a pas assez de tauliers dans le Dauphiné, il n'y a pas assez de coureurs de classe dans le Dauphiné. C'est la raison pour laquelle des seconds couteaux le gagnent, qui ne sont pas capables de gagner le Tour de France.
Le plateau est quand même plus intéressant.
Tu m'excuseras, tu as entendu parler de lui.
Le plateau est quand même plus intéressant que lors de la dernière édition, on est bien d'accord, Nicolas.
La dernière, il y avait Contador, il n'est pas là cette année.
Oui, mais à part Contador, il n'y avait personne.
Enfin, Contador, quand même, quand il est dans le départ du Tour.
Il
n'y
avait pas Basso et Evans parce qu'ils avaient fait le
Voilà.
Giro.
Il n'y avait pas Vinokourov.
Il n'y avait pas Vinokourov, mais bon, cette année, il y a quand même un Wiggins qui est pas mal. Il y a quand même.
Ah non, mais il y a un beau plateau cette année, c'est ce que je dis.
Qui fait deux l'an dernier? Qui fait deux du Dauphiné?
Contador.
Contador, bon. Ça valorise la victoire de Brajkovic quelque part. Mais c'est aussi la démonstration que ce coureur-là, si tu me dis qu'il n'est pas capable de faire 3 semaines pour être capable d'être dans les 3 premiers d'un grand tour comme le Tour de France, ça prouve que sur le Dauphiné, il n'y a pas assez de bons coureurs.
Non, c'est pas ça que j'ai dit, Pierre. J'ai dit que ce coureur-là, pour gagner un Dauphiné, il faut qu'il soit à 100%.
Oui.
Le problème, c'est qu'il ne peut pas être à 100% 5 semaines plus tard, dans la 3e semaine
mais
du tour.
Mais pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la maille.
Parce qu'il n'a pas la même envergure que certains coureurs.
Pas la maille, d'accord.
Je le pense.
Frédéric Millet.
Moi, j'attends de voir ce que va faire Brajkovic, parce que là, ils vont être 4, je le disais dans la dernière émission, 4 Radio-Shack, qui vont être 4 leaders pour le Tour. Et lui en fait partie. Donc, c'est le terrain qui va décider. Mais c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien démontré sur 3 semaines. Mais pourquoi pas? Si son pic de forme a été décalé, moi, j'attends de voir.
Bon.
Ça fait partie des...
Comment tu décales les pics de forme? Ça m'intéresse que les spécialistes m'expliquent
ça. Ça s'appelle un entraîneur et une planification. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est pas à La Rochelle quand on vient du rugby.
J'aimerais quand même qu'on me donne des exemples. Parce que c'est un peu facile, ça.
Nicolas
Perpi.
Contador est le meilleur exemple l'année dernière.
La programmation, l'entraînement, comment on prépare ce genre d'événement et l'enchaînement entre Dauphiné et Tour de France, par exemple.
L'enchaînement, je veux dire, Contador, l'année dernière, sur le Dauphiné, on voit qu'il ne peut pas battre Brajkovic. Alors, même si certains ont dit qu'il ne s'était pas mis à fond, mais bon, on voit qu'il est quand même dominé par Brajkovic dans le chrono, donc il perd le Dauphiné. Qu'est-ce qui se passe entre le Dauphiné et le Tour? Certains disent que Contador, par exemple, d'après les calculs qui avaient été faits par certains spécialistes, il avait, on va dire, gagné peut-être 10% par rapport à sa forme sur le Dauphiné. Ça, c'est à vérifier, j'ai du mal à le croire.
Oui.
Mais voilà, donc, mais qu'est-ce qui se passe entre le Dauphiné et le Tour? Parce qu'il y a 3 semaines, donc c'est pas compliqué, hein, il y a 3 semaines. Donc il faut au moins 5-6 jours pour récupérer du Dauphiné. Hein. Ensuite, il reste 5-6 jours pour travailler. Et en gros, une petite semaine pour récupérer avant le Tour de France. Donc, c'est là où le bas blesse. Qu'est-ce qu'on peut faire entre un Dauphiné et le Tour? C'est retourner en altitude. Parce que le travail, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Entre 5-6 jours, ce travail-là doit être fait. Hein, moi, j'ai vu Cadel Evans, après un Dauphiné, retourner en altitude et faire une grosse semaine de travail. Donc ça, je l'ai vu. Mais le gros du travail, il est fait avant. Hein, il ne peut pas être fait entre le Dauphiné et le Tour.
Ils vont tous en altitude entre le Dauphiné
non,
et le Tour.
Non, pas tous. Mais pourquoi alors? Mais ceux qui visent la victoire, oui, ils y vont.
Vous avez entendu le professeur Pertuis?
Moi, je n'est pas allé alors l'année dernière en altitude.
Après le Dauphiné, je ne sais pas.
Formidable analyse, Pierre.
Moi, je suis le cycliste de bon sens.
Bon cycliste.
J'essaie de comprendre.
Pour être simple, à l'époque Armstrong.
Oui.
Armstrong, on met de côté tout ce qui peut être dopage, hein, dans ce domaine-là. Armstrong, entre le Dauphiné et le Tour, il gagnait à peu près 5% de forme.
Oui. Hein.
Contador, il se trouve que lui, il gagne plus. Pourquoi, j'en sais rien, mais il gagne plus. Il est plus entre 8 et 12% de gain de puissance entre le Dauphiné et le Tour. Chacun analyse ça comme il veut, mais c'est une explication pour Pierre. Voilà.
Vous avez compris, Pierre ?
Simplement pour dire que sur le Dauphiné, un Armstrong et un Contador ne sont pas au meilleur de leur forme. Et qu'ils le sont en troisième semaine du Tour de France.
Bon, allez, on suivra évidemment ce Dauphiné. Un mot également sur la performance des coureurs français. Le meilleur, Blaise Cadry, qui se révèle, hein, Frédéric Millet, hein, véritablement, cinquième du prologue hier.
Pour moi, c'est presque la révélation française de l'année. Non pas parce qu'il gagne des courses, mais parce qu'il est là depuis le début de saison. Rappelez-vous, il était là au Tour d'un Under. Il était encore là sur Paris-Nice. Sur les classiques ardennaises, il était toujours présent. Et là, une nouvelle fois, au Dauphiné, il fait une bonne place. Alors, c'est qu'un prologue, hein, on va attendre de voir ce qui se passe tout au long de cette semaine.
Oui, attends,
mais pour moi, il a quand même une régularité que n'ont pas tous les autres jeunes. On nous a lancé un paquet de jeunes, hein, les Pierre Roland, tous ceux avant qui étaient censés, les Di Gregorio, qui étaient censés être les nouveaux Virenque ou je ne sais quoi. Lui, il ne gagne pas, certes, mais j'ai l'impression qu'il progresse régulièrement. Il y répond toujours présent au rendez-vous.
Tout à fait
son
vrai.
Niveau. À son niveau, certes.
On l'a vu cette saison, on l'a vu, oui, c'est vrai qu'on l'a vu.
Riblon est 8e, Lemoine est 9e, Coppel, Nicolas est 10e. Et comment ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est pas un contre-la-montre. Moi, on me dit que les tours se gagnent dans les contre-la-montre.
Oui.
Ils se perdent dans la montagne.
Il a raison, Pierrot.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Regardez Alberto Contador, il gagne tous ses tours dans la montagne.
Vous m'avez expliqué la semaine dernière que Contador était très bon contre la montre, comme il est très bon contre la montagne. Bon plus bon, ça ne peut faire que bon.
Ce n'est qu'un prologue. Il y a un chrono mercredi.
Voilà.
Qu'est-ce qui est le même que celui que du Tour de France?
Qui sera très intéressant
pour ça. Et là, les écarts ne seront pas les mêmes. Voilà. On ne retrouvera pas Cadry 5e du contre-la-montre mercredi.
Même avec 4 moteurs.
On est d'accord. Attendez, vous dites ça, mais ça se trouve, c'est la super révélation du Dauphiné.
Mieux,
il va peut-être jouer la victoire.
Alors,
écoutez, je connais Blel depuis qu'il est cadet. C'est un coureur très attachant, très sympa, qui a des qualités.
Il a évolué dans un club amateur. Lequel?
Albi, il était au début. Et après, il a été à Chambéry, c'est ça?
Blagnac, Nicolas Pertuis.
Je m'excuse.
Formidable club formateur.
Et il est passé dans les mains de Michel Pentus aussi.
Et voilà.
Qui s'occupe du...
Moi aussi, je suis passé chez Pentus, mais ça n'a pas servi.
Pentus.
C'est pas tout à fait pareil.
Et Blel Cadry, d'ailleurs, qui a dû être très content de la victoire de Toulouse, puisqu'il habite Toulouse.
Ah, bah écoutez. On va pas lancer Pierre Salvec là-dessus parce qu'il a eu... déjà il nous a saoulé avec son Twitter.
Je voulais en venir avec Blel Cadry,
le live Salvec.
Aujourd'hui, je me pose un peu la question pour Blel, que je me suis posé la même question pour Tony Galopin le mois dernier. D'ailleurs, j'en ai fait un petit papier dans Vélo Magazine. Pourquoi est-il fait, Blel Cadry, aujourd'hui? Pour quel type d'épreuve est-il fait? Est-ce que Blel Cadry est un futur coureur de classique? Est-ce que c'est un coureur de grand tour?
Eh bien, je pense qu'il est fait pour les courses à étapes d'une semaine.
Bien, vous avez la réponse, Manu. Merci.
Voilà. On passe à autre chose.
Je me pose la question. Aujourd'hui, je me pose la question. C'est un coureur qui a du talent.
Non, mais vous n'êtes pas d'accord?
Je sais pas.
Quand on voit qu'il est capable de faire cinquième quand même d'un prologue, quand même assez difficile, qui va bien sur les courses par étapes, qui récupère bien, mais qu'à mon avis, il manque de coffre pour faire 3 semaines de course. Je pense que les courses à étapes d'une semaine, type Paris-Nice, type Dauphiné, on va voir un petit peu comment il récupère et comment il se comporte sur les prochaines étapes. À mon avis, enfin, ça peut donner quelque chose de pas mal.
Déjà, il fera le Tour de France, puisqu'il est dans les trois coureurs de chez AG2R qui ont été nommés il y a cela 3 semaines, comme être certain de faire le Tour de France. Donc, c'est quand même un signe qu'il a fait une super saison.
Petite information également concernant le Tour de France. Vous savez qu'on a eu John Gadret, hein, la semaine dernière. Johnny.
Et tu sais que ça fait un tabac, l'histoire de Johnny.
Oui,
même l'équipe en a parlé, dis donc.
Johnny Gadret. Johnny Gadret qui, pour l'instant, prend le temps de la réflexion concernant sa, son éventuelle participation pour le Tour de France. Je l'ai eu ce matin au téléphone.
Comment il va ?
Il va très bien, mais pour l'instant...
Il a récupéré ?
Oui, il a récupéré, mais...
Il est pas allé en altitude, là ?
Et pour l'instant, on ne sait pas. Il a eu une discussion avec son, son manager, directeur sportif Vincent Lanu, qui, lui, pour le coup, souhaite hein, vraiment qu'il participe au Tour de France.
Et moi aussi, son conseiller.
Peut-être. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la décision finale concernant John Gadret.
Il y a exactement une demi-heure, il était à l'entraînement.
Oui. Oui. Mais vous l'avez eu au téléphone également ?
Également.
Ah, d'accord.
Mais parce qu'à l'entraînement, il répond.
Vous confirmez mes propos alors ?
Moi, je sais pas, je suis au téléphone.
Mais vous l'avez eu au téléphone ?
Oui.
Et il vous confirme mes propos ?
Il était encore vivant ?
Non, oui, il s'entraînait, je dois le rappeler après.
D'accord. Ah, d'accord, mais moi, il a décroché pour le coup. Mais bon, enfin, c'est pas.
La différence.
Ça, c'est notre petite...
Moi aussi, il a décroché, mais.
Ah, ouais, moi, je suis au bout de la discussion quand même. Je vais lui poser la question.
Moi, j'ai si du respect, je laisse s'entraîner.
Ah, oui, il est très respectueux, Nicolas Pertu. Allez, on passe à autre chose. Est-ce qu'on passe au Tour du Luxembourg ? Vous voulez qu'on parle du Tour du Luxembourg ou pas ?
Ah, oui, bien sûr.
Avec la victoire de Linus Gardeman.
Il y a Schleck qui s'est fait battre quand même.
Ouais, sur le fil. Ouais, avec Romain Feuillu. Romain Feuillu.
J'aurais dû embaucher les deux frangins. Hein.
Oui, finalement. Oui, c'est vrai, c'est
moi, je me suis dit d'embaucher le mauvais.
Frédéric Millet, le Tour du Luxembourg, ça vous intéresse ?
Mais surtout que Brice Feuillu, il ne veut pas faire le tour, apparemment.
Non. Bah,
c'était pas prévu, il ne devait pas le faire. Hein,
tout bah, enfin, s'il avait marché.
Mais il n'existe que par le tour, Brice Feuillu ?
Bah oui. C'est
expliquez-moi.
Non, mais il ne devait pas le faire, il devait faire le Giro. Mais bon, comme l'équipe s'est tirée après le Giro.
Mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Brice Feuillu n'a été engagé que pour faire le tour.
Mais regardez l'équipe Léopard Trek et vous verrez que Brice Feuillu. De par ses résultats cette année, n'a pas sa place sur le Tour de France.
Donc il a fait une connerie d'aller dans la...
Il n'a pas fait une connerie, il n'est pas au niveau, c'est tout.
Eh bien, fallait qu'il aille dans une petite équipe.
Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il ne participera pas au Tour de France ?
Oui. Moi, je ne sais pas.
Il n'y a plus qu'une place, j'ai lu, et apparemment, ce n'est pas lui qui est en pôle.
Non, mais de toute façon, il ne devait pas le faire.
Ouais.
C'est pas vrai.
Ah non.
Au début de l'année, s'il marchait, il avait sa place en montagne, aux côtés des frères Schleck. Il a été recruté pour ça.
Il n'a pas été usé par le Giro.
Il a été recruté, Nicolas Pertu, pour servir d'appui au frangin Schleck en montagne, Brice Feuillu.
On est bien d'accord, mais.
Mais pour l'instant, il n'est pas au niveau. Hein ouais, c'est ça le problème. Ah, oui.
En revanche, son frère est au niveau. Hein. 8e course de l'année. Alors, tout le monde dit que c'est certes des petites courses, mais il faut aller les gagner. Parce que ce n'est pas des courses pro tour, mais il a une régularité, Feuillu, qui. Dans le même registre tout à l'heure, je disais que Kadri a un niveau moindre et régulier, mais Feuillu, il est régulier depuis le début de saison. Il était là au Tour d'un Under, au Tour Méditerranéen, il a claqué ses trois étapes.
Oui, mais alors là, attention, là, vous faites une petite erreur, Frédéric Millet, si je peux me permettre.
Frédéric.
Parce qu'on peut vous créer une certaine confusion entre la régularité d'un coureur par étape et la régularité d'un sprinteur. Il est évident que pour un sprinteur, c'est plus facile d'être présent tout au long de l'année que pour un grimpeur ou un coureur qui prépare spécifiquement une course par étape.
En l'occurrence, Jimmy Casper, je trouve moins régulier.
Mais c'est une pompe à roulettes, Jimmy Casper.
Oh là 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 là. Il est temps que cette émission s'arrête parce que là, c'est une insulte.
Mais pas du tout.
Non, attends, Jimmy Casper. Tu peux pas dire ça, c'est un grand champion.
Il est sur la fin de sa carrière, Jimmy Casper.
Mais c'est un grand champion.
Un grand champion.
De deuxième division.
Ah oui, d'accord.
Vous êtes quand même sévère. Vous êtes vachement sévère.
Dire que c'est un grand champion, c'est reconnaître qu'il gagne des courses. De deuxième division, c'est estimer que c'est son niveau.
Ça reste le dernier sprinter français à avoir gagné une étape sur le Tour de France au sprint.
Oh, super.
Je vous le répète.
Oh, oui, il y a combien de temps?
Je vous le répète.
Ça, c'était quelle étape?
C'était à Strasbourg en 2006, certes.
Oui, en 2006.
Étape numéro?
Numéro 1.
Ouais.
Première étape du tour?
Première, ouais.
Ah, ça a de la valeur.
Première étape du tour?
Oui.
Il avait pris le maillot jaune?
Non,
il est.
Ah ouais, c'est Uchoff.
Bon, mais très bien, mais 2006 quand même.
Tu vois, on s'en souvient bien.
Attendez, non, là, on va tous se mettre d'accord. Si aujourd'hui. On dit que Jimmy Casper, c'est l'avenir du sprint en France.
J'ai pas dit ça, Manu.
Et que tous nos espoirs.
Ah, quand il a gagné ses trois étapes du Tour d'Allemagne, je l'ai cru.
Mais il y a 15 ans.
Ben voilà, il y a 15 ans.
On est en 2011 là aujourd'hui.
Ah, oui.
Faut regarder vers l'avenir. Si vous parlez de Jimmy Casper pour aller chercher des victoires d'étape, allez, peut-être sur le Tour de France et encore.
Oui,
et encore, j'en suis pas sûr.
Manu, ce que je veux dire, c'est que Feuillu passe. Le Romain Feuillu, la différence, il passe des étapes de moyenne, des étapes vallonnées. C'est pour ça qu'on le retrouve. C'est pour ça que je dis qu'il est régulier. C'est-à-dire que même là, c'était quand même une étape dure hier. Hein. Ils étaient plus beaucoup à être dans le paquet. Il est quand même là. C'est pas un pur sprinter. Il a cette petite touche qui fait qu'il a quand même fait 10 au championnat du monde l'an passé.
C'est vrai.
Il faut pas le négliger.
Nicolas Pertu.
Là où Romain est très très fort, c'est que pour comprendre ça, il faut remonter au début de sa carrière. Moi, j'ai connu Romain chez les jeunes aussi, et c'est un coureur qui n'a jamais dominé sa catégorie. C'est un coureur qui avait d'ailleurs un gros problème de jambes après un accident de scooter. Hein, faut le rappeler quand même que Romain Feuillu, à 21 ans, s'est fait opérer par un par un presque en clandestinité
ouais, enfin, par Nico, non s'il faut rappeler tous les coureurs qui ont été blessés un jour dans leur carrière, c'est pas une heure d'émission,
c'est faire allonger une jambe, c'est pas rien. Ouais. Simplement ce que je voulais dire c'est que c'est un coureur,
c'est Salga qui en a filé un peu et depuis il marche de travers.
Laissez-moi parler, bordel. Laissez-moi parler. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un coureur qui a jamais dominé. Donc Romain Feuillu a toujours couru au millimètre et aujourd'hui il maîtrise ça parfaitement, c'est-à-dire que pourquoi vous marrez quand vous regardez?
Non.
Je dis un truc vachement sérieux.
On vous écoute, Nicolas. Voilà. On est avec vous. Vous inquiétez pas.
C'est un coureur qui court au millimètre.
Ouais.
D'ailleurs,
on regarde son vélo.
D'ailleurs, là-dessus, il en parle souvent. Il est le coureur qui fait sûrement le moins d'efforts dans une course. Et au bout, ça paye. C'est pour ça qu'il est si fort, Romain Feuillu. Et cette étape qu'il a gagnée au Luxembourg, c'est pas rien parce que c'est presque la compi conforme de certaines étapes du Tour de France en première semaine.
Et puis devant qui gagne surtout.
L'étape de Lisieux. Voilà. Donc, certes, c'est un sprinter, mais c'est pas un sprinter comme les autres. Et c'est en cela qu'il arrive à faire la différence.
C'est un coursier.
C'est
un vrai coursier.
Maintenant, le souci de Romain Feuillu.
Ça, on peut pas le dire de tout le monde, mais
pour
lui.
Mais Casper n'est pas une pompe à roulettes quand même.
Pourquoi vous revenez sur le problème, sur le cas personnel de Jimmy Casper?
Parce que je pense que c'est le meilleur sprinter français, c'est tout.
Non, c'est Feuillu maintenant.
Mais Pierre Salviac.
Mais dans une autre vie.
Non, mais. C'est pas comparable.
Reprenez Nicolas Pertu parce que
c'est très difficile de comparer Romain Feuillu à Jimmy Casper. En puissance max, il y a un écart énorme entre les deux. Énorme.
Et à l'avantage de qui?
Et qui s'impose, oui, finalement.
À l'avantage de qui?
Là, cette année, on est 8-1, puisque Casper a une victoire et Feuillu 8. Oui. On est bien d'accord.
Ça fait une grosse différence.
Mais Casper, dans l'étape d'hier, c'est pas une étape pour sprinter hier. C'est pas une étape pour pur sprinter qui gagne.
C'est pour ça que je vous dis que
sur le tourmel, l'étape que gagne Feuillu en haut de la côte, c'est pas une étape pour pur sprinter.
On est d'accord.
C'est un sprinter différent.
S'il fallait comparer, on en a parlé en début d'émission. S'il fallait comparer un coureur à Feuillu, à Romain Feuillu, ce serait plus un Samuel Dumoulin, par exemple.
Ouais. Complètement.
Qui a un peu le même profil, qui est un puncher, qui est capable de passer les bosses et de s'imposer.
Sauf qu'il veut faire une bosse hier, il finit que troisième au sommet de la bosse.
Non, mais ça,
et
c'est
dernier,
non,
mais
ça, c'est, voilà, ça, alors, c'est... Pour être plus ah, oui. Son modèle pourrait être Uchoft.
Ouais, sauf que, encore une fois, Feuillu est moins explosif que Dumoulin.
Uchoft, Feuillu.
Feuillu, ouais. Dans une arrivée en bosse, a moins de chances de s'imposer que Dumoulin. Mais par contre, Feuillu, dans une arrivée avec une bosse et un kilomètre tout plat, a plus de chances de s'imposer parce que. Il sait le faire.
Linus Gerdemann, vainqueur du Tour de Luxembourg.
Alors ça, c'est un coureur énigmatique qui il me laisse de glace, quoi. C'est un coureur talentueux, mais on peut se poser la question de savoir qu'il a perdu déjà 3 années, là. On peut se poser la question de savoir ce coureur veut faire dans les années qui viennent. Il nous avait épaté sur le Tour en 2007 en étant maillot jaune, ou 2008, je ne sais plus. 2007,
Amorzin, hein. Je crois.
Ouais, il avait profité de la chute de Rogers qui allait prendre le maillot jaune mais qui était tombé. Moi, il ne m'épate pas. C'est un coureur qui a des qualités hors normes. Rappelez-vous, au Tirreno, il avait aussi fait un numéro. Il s'était cassé la rotule. Il a eu des accidents aussi. Ce n'est pas compliqué. Mais là, la victoire qu'il gagne au Luxembourg, pour son équipe, ça a du poids.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais.
Et il a
excellent coureur.
C'est un excellent coureur,
c'est évident.
Hyper doué, carrière perturbée par des blessures, comme tu l'as fait remarquer. Mais quand même, il y a des points de repère quand même dans sa carrière qui démontrent que ce coureur-là, je suis désolé, il est à prendre en considération. Si vous commencez à faire la fine bouche sur Gelderman, non, c'est pas lui, c'était son ancêtre sur Gerdemann. Alors, savez-vous, faites la fine bouche sur tout, les mecs.
Quel équilibriste, ce Pierre Salviac, Frédéric Millet, du cycle.
Oui, c'est vrai que Linus Gerdemann, on s'attendait à mieux. Donc là, il a gagné le Tour de Luxembourg, c'est bien, mais on le prédestinait à une autre carrière. Moi, ce que je retiens de ce Tour de Luxembourg, c'est surtout la bonne performance des jeunes Français. Parce que, toujours attentif au progrès de
Géniès, deuxième du classement général, et Galopin, troisième. Hein.
Voilà, c'est quand même des jeunes qui, eux aussi, eux sont très jeunes.
Hein. Oui, bien sûr.
Ils ont 22 ans. Donc, j'ai l'impression que pareil, ils sont de plus en plus forts. Donc, on va attendre qu'ils confirment.
En même temps, j'ai envie de vous dire, quand je regarde le classement, et là, je l'ai sous les yeux, du classement général.
Parce qu'autrement, tu serais bien embarrassé.
Du Tour de Luxembourg, Gerdemann est premier, oui. Deuxième Géniès, troisième Galopin, quatrième Montfort, cinquième Delage, sixième Galant, huitième El Fares, onzième Bichot. Ça ressemble un peu à une Coupe de France, ça, quand
troisième
même.
Troisième Galopin. Alors, j'aimerais savoir quelle importance il faut donner à la troisième place de Galopin, dont on me dit que c'est le grand espoir.
Bah, maintenant que je viens de découvrir le classement, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer. Ouais, non, parce que franchement...
Franck Schleck, 21e.
Oui, mais bon, et vous croyez vraiment 37e. Vous croyez vraiment qu'il a joué la victoire, Franchelec, qu'il a préparé ce Tour du Luxembourg?
Bon, quelques semaines à peine. Vous fuyez la question sur Galopin.
Bon, Saviac, alors c'est quoi la question avec Galopin?
Troisième, quel prix faut donner à cette troisième place de Galopin?
Nicolas Pertuis.
Alors, ça dépend. Si vous attendez à ce que Tony Galopin devienne le grand coureur français
oui,
sur les grands tours,
oui, hein,
déjà, tu peux te le mettre bien profond. Parce que ça, c'est faux. Tony Galopin, coureur qui a commencé à briller chez les jeunes sur le chrono. Tony Galopin, qui aujourd'hui brille dans les sprints. Dans les sprints, alors attention, pareil, les sprints un peu à la feuillue, non pas des sprints massifs. Oui. Quel avenir pour Tony Galopin? J'en ai parlé avec...
Que entre deux chaises.
J'en ai parlé avec Alain, qui son oncle.
Son mentor hein, également, on peut le dire.
Oui, tu veux, oui, sa caution.
Il faut attendre Tony Galopin plus sur les classiques ardennaises et wallonnes dans les années à venir.
D'accord.
C'est plus vers ça qu'il faut l'attendre. Maintenant, ça ne veut pas dire... qui ne peut pas non plus briller sur des courses d'une semaine.
En revanche, Géniez, lui, a davantage le profil pour les courses par
étapes. Oui, parce que c'est plus un grimpeur. Ouais, Galopin n'est pas un pur grimpeur.
Expliquez-moi alors pourquoi on m'a tant parlé de Galopin. Moi, le cyclique, c'est jamais de Géniez. Expliquez-moi.
On a déjà parlé de Géniez.
Au Critérium International, il a fait
T'as raison. Oui, c'est vraiment le coureur dont on parle le plus.
Mais si vous suiviez un petit peu l'actualité du vélo, Pierre Salviac.
Parce que toi qui es obligé d'avoir sous les yeux le classement du Tour de Luxembourg.
Si vous
tu nous en fais comme 100 000 parce que t'as sous les yeux dans l'équipe le classement du Tour de Luxembourg, tu me dis que je suis pas le vélo, moi.
Si vous suiviez un petit peu l'actualité du vélo.
Qui sera au sommet des boss dans son camping-car sur le Tour de France?
Ben, moi avec vous également. Avant des saucisses, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs.
Le Critérium International, l'étape de montagne du Critérium International. Il s'était montré Géniez.
C'est vrai.
Après, c'est vrai qu'il a pas.
Voilà.
Mais il est régulièrement cité, Pierre. Géniez.
Mais oui, mais ouais, je suis pas trop d'accord avec Pierre.
Nicolas Pertuis.
L'année dernière, Géniez avait aussi explosé. Je veux dire, il faut se rappeler de cette équipe. Je la rappelle souvent, mais cette équipe espoir à Mendrisio, où on avait quand même une équipe de France dans le final, si on s'en rappelle, en espoir, hein, je parle.
Oui, on s'en rappelle très
rappelez-vous,
bien.
Rappelez-vous les coureurs.
Oui. Vas-y.
Pierre, alors, les coureurs.
Allez, citez-moi trois noms de l'équipe de France Espoir à Mendrisio.
Ah, moi, je peux t'en citer aucun.
Nicolas Pertuis.
Il y avait Romain Sicard.
Hein,
champion du monde.
Non, 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 mais laisse-moi finir.
Au passage, il a gagné le titre.
Il y avait Sicard. Il y avait Géniez. Il y avait Bichot.
On se le fait aujourd'hui, le Salviac.
Il y a deux ans, Sicard.
C'était Mendrisio 2009.
Ah oui, c'est ça. On est dans 2011, on est bien d'accord.
Il y avait Sicard. Il y avait Géniez. Il y avait Thibaut Pinot. Il y avait Bichot. Ça fait quatre coureurs, les gars.
On avait une belle équipe en espoir.
Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Qu'est-ce qu'ils deviennent? Géniez, deuxième du tour de Luxembourg.
Mais si tu fais la Géniez de ça, tu dois dépasser la deuxième place de.
Non, mais Géniez ne fait que confirmer au fil des mois son statut.
C'est pas
une deuxième place par hasard, c'est une deuxième place qui vient s'ajouter à d'autres. Et ça, c'est pas rien.
Allez,
Thibaut Pinot, on l'attend sur ce Dauphiné.
Je le note.
Bien plus tard. Une petite question de Robin. C'était diffusé sur quoi? Il veut parler d'une chaîne de télévision, bien sûr, le Tour de Luxembourg, en fait.
Tiens, parlons-en.
Sur RTL Luxembourg,
exactement.
Sans doute, à la télévision, mais pas en France, en tout cas. Ça, c'est une.
Mais moi, je suis sur Twitter, ça marchait très bien.
Ouais, le Twitter de Pierre Salviac.
Sur Internet, il met toujours un résumé vidéo.
Allez, c'est la fin de cette première partie de Carrément Vélo. Ça passe vite. On va profiter, bien sûr, de cette deuxième demi-heure. Restez connectés sur le www.rtl-l'équipe.fr. On va poursuivre la discussion sur. On va boire un coup après l'émission, mais on va d'abord poursuivre.
J'ai rendez-vous avec DSK après.
Ah, vous avez rendez-vous avec DSK, d'accord. On va poursuivre la discussion en deuxième partie d'émission sur le Tour du Luxembourg. On va parler des Français encore et puis on va accueillir également. Tiens, un revenant, Aurélien Passeron qui court désormais pour une équipe coréenne qui court à nouveau en France. L'occasion, bien sûr, de prendre de ses nouvelles.
RTL L'équipe. Carrément Vélo, Emmanuel Barthes.
La deuxième partie de Carrément Vélo jusqu'à 12h30, bienvenue. Si vous venez de vous connecter sur le www.rtl-l'équipe.fr, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir, bien sûr, et ça fait bien plaisir. Nicolas Pertuis de Vélo Magazine est avec nous. Pierre Salviac. Vous êtes d'où d'ailleurs, personne ne travaille pour
moi. Moi, je me rappelle plus. La liste est trop longue. Non, mais je voudrais en profiter pour dire à nos auditeurs d'abord merci de nous avoir écoutés et supportés en ce qui me concerne. Mais surtout, si vous estimez effectivement que ça va créer un manque dans l'hypothèse où cette émission disparaît en même temps que la web radio, mais qu'est-ce que vous attendez pour convaincre 5 de vos amis, pas plus, mais déjà 5, de d'écrire sur le Facebook? Et nous faire part de votre manque par rapport à ce genre d'émission. Il vous suffit d'en trouver 5, d'en convaincre 5, et dans la demi-heure qui suit, moi je veux voir s'il y en a vraiment qui regrettent la fin de ce genre d'émission.
Allez, Frédéric Millet, le message est lancé. Frédéric Millet du Cycle est avec nous également. On va encore profiter, bien sûr, de cette deuxième demi-heure. On poursuit un petit peu le débat, si vous le voulez bien, sur le tour du Luxembourg, parce que c'est vrai que le classement est quand même assez intéressant avec tous ces jeunes Français. C'est ça qui est intéressant, tous ces jeunes Français qui sont présents dans les premières positions. Frédéric Millet, quelle analyse on peut faire? Bon, bien sûr, attention, hein, on ne va pas s'emballer, même si on attend toujours, c'est vrai, ce grand champion de demain, Frédéric.
Il y a un coureur qui aussi, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de redevenir ce qu'il était, c'est Michael Delage, qui petit à petit a fait une place de troisième, qui redevient sprinter. Il n'est plus au service de Philippe Gilbert. Je pense qu'il est retourné à la FFD Jeux pour avoir un petit peu plus de latitude. Faut pas oublier qu'il est encore jeune, hein, et j'ai l'impression qu'il reprend sa marche en avant. On va voir, hein, ce qui va être intéressant. Là, il y a plein de jeunes qui se préparent pour le championnat de France. Le championnat de France qui va être à Boulogne, ça va être aussi quelque chose d'intéressant, quoi.
Nicolas Pertuis.
Oui, Michael Delage perturbé en début de saison par un problème hormonal. Donc voilà, qu'on aurait aimé voir à un autre niveau, mais il sait pourquoi il n'était pas au niveau en début de saison. Il était là pour plutôt aider Ofredo finalement, mais c'est un coureur qui, je crois, qui a terminé déjà troisième d'une classique à Saint-Sébastien, faut pas l'oublier. Qui termine troisième aussi du championnat de France l'année dernière. C'est vraiment un coureur d'un jour, Michael. Et je crois qu'il va falloir compter sur lui dans les semaines qui viennent.
Allez, Pierre Salvec, pour terminer.
Oui, il faut compter sur Delage dans les semaines qui viennent.
Oui, il confirme.
Très, très bon coureur, Michael.
Très, très bon.
Très, ouais. Très bon coureur. Très
bon. Bon. On n'a que des bons coureurs, alors finalement,
non,
si
mais,
on vous écoute.
Non, mais non.
C'est un coureur, voilà, Michael Delage, faut pas l'attendre sur, il faut l'attendre peut-être sur une victoire d'étape sur le Tour, faut l'attendre sur les classiques, mais faut pas l'attendre ailleurs.
T'as compris, Manu ?
Vous êtes d'accord, Pierre, avec
mais,
Nicolas ?
Mais moi, bon, Nicolas, depuis qu'il me fréquente, quand même, il a progressé.
Ça, c'est
vrai que je me sens un peu moins con.
C'est incontestable.
Un peu plus beauf, mais moins con.
Mais c'est bien l'essentiel. Bon, allez, vous savez ce qu'on va faire? C'est du direct. On va passer un petit coup de fil à Aurélien Passeron qu'on va accueillir d'ici quelques minutes. Et puis, on va finir l'émission, bien sûr, avec Aurélien Passeron. D'ailleurs, on se souvient, tiens, on va rappeler un petit peu son parcours. Hein. Oui, Pierre.
On va pas parler de la décision des Italiens.
Bon, non, vous pourrez lui en parler parce, oui, qu'Aurélien court avec, ah bon, Ricardo Rico.
Ricardo Rico, oui,
non,
au sein
de la
Sony Duval.
Je parle de la décision de la fédération italienne.
Oui, alors.
De rayer de la participation au championnat national des coureurs qui ont été pris par la patrouille. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça, c'est de la vraie lutte contre le dopage.
Frédéric Millet.
Ça a été fait à partir de. Il fallait que ce soit les coureurs pris après 2008, je crois, et tout ça.
Donc oui,
ça,
2008.
Ça devient encore une usine à gaz. C'est-à-dire que Yvan Basso va pouvoir le faire, mais les derniers Rebellin ne pourraient pas le faire. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, vous avez vu le Grand Prix du canton d'Argovie hier.
Quoi ?
Une course en Suisse. Troisième Schumacher et sixième Rebellin.
Formidable.
Non, mais, et quatrième Anto Marquis, hein, faut le dire.
Puisqu'on a amorcé Marquis, cette question, moi je vais jusqu'au bout. C'est vrai qu'on peut regretter la décision de la fédération italienne de faire partir sa sanction à partir d'une certaine date 2008. N'empêche que c'est la première fois que dans la lutte contre le dopage, je vois une fédération prendre une décision qui me paraît de nature à dissuader les plus chargés du peloton.
Eh bien, alors là,
parce
je vais reprendre.
Si tu n'es pas autorisé à participer à ton championnat national parce que tu t'es fait prendre un jour par la patrouille, ça peut faire jurisprudence, ça peut encourager les organisateurs des grands tours à suivre cette jurisprudence et ça peut, in fine, écarter tous les coureurs qui trichent. Alors, par exemple, le Grand Tour de France ne pourra pas écarter Contador parce qu'à ce jour, il ne s'est pas fait prendre par la patrouille officiellement, mais n'empêche que c'est une voie qui est ouverte. C'est une idée qu'il faut soutenir parce qu'enfin une fédération prend au moins partie de sa responsabilité dans cette affaire.
Alors je vais reprendre les propos de Jean-Paul Olivier, invité la
Qu'est-ce
semaine dernière du Café
qui continue
des Sports.
À faire ses bouquins.
Jean-Paul Olivier nous a dit c'est une stupidité, c'est d'une hypocrisie.
Pourquoi ?
Que les Italiens
Pourquoi ?
Qui veulent soi-disant maintenant nous donner des leçons de lutte antidopage prennent ce genre de décision. C'est un scandale. Comment peut-on empêcher un coureur de faire son job? Il a été suspendu.
Non,
ok.
Mais...
Bon, là, je reprends évidemment avec virulence les propos de Jean-Paul Olivier.
La fédération italienne a décidé de modifier son règlement pour aboutir à ça. Elle a le droit de modifier son règlement. Et si l'idée de modifier son règlement vise justement à mettre hors jeu des coureurs qui ont été pris par la patrouille, je trouve ça normal, parce que ça veut dire aussi, c'est un message fort envoyé, ça veut dire, vous trichez, vous pensez que c'est fini, et bien quoi qu'il arrive, on ne vous donnera jamais l'occasion de porter le maillot national pendant une saison.
Nicolas Pertuis, et derrière, on accueille Aurélien Pastrement.
Il faut demander à Aurélien ce qu'il en pense, lui qui a couru pour Aquae Sapone, qui a commencé sa carrière pro chez Aquae Sapone, où il avait gagné d'ailleurs deux courses, deux belles courses. Il faut lui poser la question de savoir si lui, en Italie, il a perçu déjà en 2005 ou 2006 ou 2007, enfin 2005 et 2006, 2007,
oui,
une évolution dans ses équipes-là.
On va l'accueillir justement sur l'antenne de RTL Équipe. Aurélien Pastrement, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. La bio, rapide, évidemment, formation à Aix-en-Provence, un titre de champion de France en espoir. Vous partez en Italie. Déjà, c'est un peu particulier. Au sein des sports, à quoi est Sapone? Un an plus tard, vous passez professionnel, puis la formation Sonny Duval.
C'est une erreur, Manu. C'est une erreur. C'est pro directement chez à quoi est Sapone.
Ah bon?
Il a gagné une étape autour de Burgos et puis une semi-classique italienne.
Oh, je demande confirmation là. Vous êtes passé pro directement, Aurélien Pastrement?
Bah, bien sûr.
Non, j'ai fait une année amateur en Italie.
Voilà.
Oui, mais bon, il est passé. C'était pas l'équipe à quoi il s'appelle espoir.
C'était pas l'équipe à quoi il s'appelle espoir.
C'est pas l'équipe à quoi ça pone espoir.
Ah bon, ok, je l'accorde, je me suis planté sur ce coup-là, d'accord, pas de problème.
C'est tout.
Bon,
Manu,
depuis,
carton jaune.
Vous avez eu un parcours plutôt atypique, on va y revenir bien sûr. Un mot juste sur ce débat autour de la décision de la Fédération italienne, Aurélien.
Ah, je pense que c'est une bonne chose, c'est un pas en avant vers pour assainir le cyclisme. Je pense que donner une seconde chance, des fois, ça peut être bien, mais depuis qu'on leur donne des secondes chances et on voit les résultats, je pense qu'à un moment donné, il faut une tolérance presque zéro.
Nicolas Pertuis.
Je vais simplement dire qu'Aurélien, l'année où Rico s'est fait choper sur le tour, était dans l'équipe Sonny Duval.
Il
a chuté, je crois, à la troisième ou quatrième étape. Il a dû abandonner après avoir fait cinquième du championnat de France ou sixième, je ne sais plus. Et que Aurélien, à la suite de ça, a démissionné de l'équipe Sonny Duval. C'est-à-dire qu'il n'a, il s'est pas fait licencier. Enfin, il a démissionné de lui-même. Il est resté sans employeur et sans contrat et puis sans chômage surtout. Il a pris la décision de lui-même partir et ça, c'est un geste fort qui a été noté nulle part, mais c'est un geste fort.
Alors pourquoi cette décision, Aurélien Pastrement?
Bah, tout simplement, moi, suite à ma chute au Tour de France, j'étais hospitalisé et puis. Le seul écho que j'avais, c'était pas ma santé, comment j'allais, mais c'était est-ce que moi aussi j'étais concerné par le dopage, est-ce que moi aussi est-ce qu'il y avait un dopage organisé au sein de l'équipe. Donc ça m'a un peu dégoûté carrément du cyclisme de haut niveau. Et suite à ça, j'ai été contacté par un projet d'équipe qui a malheureusement pas vu le jour. Mais je pouvais plus être porté. Par rapport à mon nom et tout, il était attaché à Sonny Duval et à Ricardo Rico et je ne pouvais plus. Quoi.
D'accord.
Donc, j'ai pris la décision de démissionner et d'essayer de trouver une nouvelle équipe.
Et vous en êtes où alors précisément? Parce qu'aujourd'hui, vous portez les couleurs d'une formation coréenne. Je crois que vous êtes de retour également sur le circuit, le calendrier français.
Oui, voilà. On a participé déjà au Bouc de l'One et à un Grand Prix de Plumélec. On est ici pour un petit programme pendant les 2-3 mois d'été qui restent pour développer. C'est une équipe en plein développement et je pense que je crois beaucoup au cyclisme asiatique, je crois beaucoup au nouveau cyclisme et je trouve que c'est pour moi une réelle opportunité de faire le cyclisme comme je l'entends.
Alors justement,
Nicolas Pertuis.
Aurélien, c'est quoi le cyclisme comme tu l'entends? Si tu peux le résumer rapidement parce que c'est intéressant pour nos auditeurs.
Je pense que le cyclisme comme il est actuellement, il est vraiment basé sur le passé et c'est beaucoup d'anciens coureurs qui gèrent les équipes, les anciens managers qui font pas forcément du nouveau. Et là, ce projet-là, avec des gens qui connaissent pratiquement, qui n'ont pas d'histoire dans le cyclisme, qui n'ont pas de mauvaises histoires surtout, c'est ça qui est bien, c'est que Il n'y a pas de casserole, quoi. C'est tout nouveau et c'est tout neuf et on peut vraiment faire du nouveau.
Pierre Salvec.
Aurélien, tu me fais plaisir.
On parle de nouveau.
Aurélien, tu me fais plaisir. Après, nous passerons à autre chose. Mais tu me fais plaisir en disant ça parce que moi, ce que je reproche au cyclisme par rapport aux autres sports, c'est qu'effectivement, il y a un vieillissement de l'encadrement. Et ce vieillissement de l'encadrement n'est pas propice à l'évolution du cyclisme. Tu as raison de le dénoncer. Et maintenant, je vais dénoncer autre chose. Tu es au micro, là. Lâche-toi, rentre dans le micro, réveille-nous et gueule une bonne fois pour toutes parce que tu as raison de mener ce combat.
Et c'est un combat que vous menez d'ailleurs depuis plusieurs années. C'est peut-être la raison d'ailleurs que c'est vrai qu'on a pu être surpris finalement. Vous partez en Italie après votre titre de champion de France Espoir. Vous passez dans une équipe professionnelle en Italie. Vous n'avez pas été contacté par les managers, par les directeurs sportifs français, Aurélien Passon ?
Monsieur Tuzasbin !
Je lui pose la question quand même.
Ben non, pas plus que ça. Bon, moi c'est sûr que déjà je suis du sud de la France, j'ai un peu un tempérament de niçoise, différent avec le cyclisme qui est plus une culture du nord de la France. Donc moi c'était plus simple pour moi d'intégrer le cyclisme italien et
ben
puis
oui.
Une de haut niveau, je l'ai à 30 km de chez moi alors que. Pour être en France, il faut aller en Bretagne ou il faut aller dans le nord de la France. C'est plus ici qu'il y a des cultures, plus d'anciens coureurs. Donc, pour en revenir à l'ancien, c'est plus simple d'avoir des connaissances dans le cyclisme en étant ici dans le nord que chez moi dans le sud, quoi. Donc, moi, c'était évident pour moi que j'ai en Italie.
Juste une dernière question, concernant le retour à la compétition pour l'instant. Oui, retour, mais bon, ça peut durer quelques semaines, quelques mois à peine. Celui de Ricardo Rico, votre ancien coéquipier, qui, contre toute attente, finalement, a retrouvé une équipe et peut courir, hein, aujourd'hui.
Ben, ouais, c'est marrant, je trouve ça, c'est aberrant, quoi. C'est une aberration.
Ouais, tu as raison.
Rien d'autre à dire.
Une aberration. Il n'y a rien à dire de plus. Il a tout dit. On peut passer à autre chose maintenant.
Voilà, non, bah attendez, c'est quand même important là. Ricardo Rico, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, tout le monde disait oui, c'est un danger pour lui. Le sport de haut niveau, il faut le protéger. Aujourd'hui, on voit une équipe qui le recrute à nouveau, Nicolas Pertuis.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Aurélien. C'est navrant, mais bon, le cyclisme est comme ça. Maintenant, moi, la question que j'avais envie de poser à Aurélien, c'est cette équipe, c'est un peu la sienne aussi. Cette équipe, c'est un peu son mental, enfin son mental, son idée. J'aurais qu'il en parle un peu, quoi.
L'ADN.
Ouais, et puis un peu les objectifs sportifs qui viennent dans les semaines qui viennent.
Déjà, c'est pour moi quand cette équipe par le biais de mon entraîneur avec qui je travaille depuis 2 ans et. On est en train de monter ce projet en commun avec le manager de cette équipe coréenne. Donc le sponsor en plus c'est un sponsor qui est du Gym 5. Donc c'est aussi une nouveauté avec une philosophie, une mentalité derrière toute nouvelle. Et c'est vraiment intéressant pour moi, surtout que là on va faire des belles courses en Europe et ça va me repermettre de retrouver mon niveau sportif, parce que ma dernière course en France était le Tour de France. Puis je pense que j'étais en bonne condition puisque j'avais fait 7e au championnat de France 2 semaines auparavant, après j'ai eu cet accident. Donc aujourd'hui je pars vraiment pour relancer ma carrière au plus haut niveau avec un nouveau projet, puis étape par étape surtout, puisque je pense qu'il faut pas griller les étapes. On est une petite équipe, il faut qu'on grandisse jour après jour.
Allez, une dernière question de Nicolas Pertuis. Ouais.
On
l'a perdu, non, alors là.
Juste une dernière question, Aurélien. À quel niveau on peut t'attendre sur le championnat de France? Parce que, voilà, tu vas faire le championnat de France. C'est un peu pour toi la course, une des courses en tout cas, qui peut te faire briller par rapport aux autres équipes pro françaises et aux managers français. À quel niveau on peut vraiment t'attendre au championnat de France?
Mon dernier championnat de France, j'ai fait 7e. J'ai toujours bien marché au championnat de France. J'avais été champion de France espoir, donc je pense que je peux être à niveau pour le maillot.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on suivra évidemment.
Allez,
et puis, on suivra la suite de votre carrière avec je sais pas, bon, pourquoi pas, peut-être un retour en France. Enfin, je sais pas si vous le souhaitez.
Enfin,
en tout cas,
la course aux États-Unis au Canada,
oui.
Il a gagné je sais pas combien de courses.
Oui.
Au début de saison, il y a quelques semaines, il a couru, Tour de Corée, et il a fait 2 fois 2e d'étape, je crois. C'est un coureur, non, il faut. Moi, je serais au championnat de France, il faut faire attention à lui, je pense qu'il sera là. Et je connais Aurélien, il sait se préparer, dans le bon sens du terme, attention. Et franchement, même si c'est. Allez, je profite, c'est peut-être la dernière émission, et je lance un message aux managers français. Et là, je le dis franchement et honnêtement, je crois qu'ils sont passés vraiment à côté d'un bon coureur.
Et nous, on soutient Aurélien.
Et voilà, je voulais le dire parce que c'était important. Je rencontre beaucoup de coureurs depuis quelques années maintenant en tant que journaliste. et Aurélien, et de passer à côté de lui, c'est vraiment dommage.
Ben écoutez, voilà la raison pour laquelle on souhaitait avoir, évidemment, vous l'avez dit, c'est peut-être la dernière émission, la raison pour laquelle on souhaitait avoir Aurélien.
Passons. Que Meller continue de nous soutenir, et les coureurs cyclistes aussi.
Oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas de souci, on va essayer de faire en sorte de pouvoir poursuivre, même si ce n'est pas gagné, pour être tout à fait franc.
On va se battre.
Aurélien, Passeron, à bientôt.
Salut,
et le
Aurélien.
Meilleur, bien évidemment.
Champion de France. Hein.
À une prochaine, on l'espère, sur le www.rtl-l'équipe.fr.
Carrément vélo, c'est sur RTL Équipe.
Bon, Pierre, il va falloir vous discipliner un petit peu. Hein.
Pourquoi ?
Ah, il va falloir vous discipliner. Hein. Non, parce que là, il faut rester concentré jusqu'à la fin d'émission. Midi 19, 10 minutes.
J'étais
encore.
Pris par un faux rythme.
Par un quoi ?
Par
un fou rire, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Allez, il nous reste 10 minutes à passer ensemble dans cette émission, dans ce Café des Sports. Ça sent un peu la fin, hein, tout de même. On va pas vous cacher.
La fin, quand le coup de sifflet final est sonné. On parle de la faim. Avant, non.
Bon, allez.
Parce que la faim dans le monde, ça existe.
Enfin, les midi vent, en même temps, on a tous un peu faim.
Oui, oui, on a tous un peu faim, c'est vrai.
Oui. On va pas faire ça en vain, quand même.
Quel sujet on va développer à présent pour terminer cette émission ?
Il va
rester 10 minutes.
Ah, oui.
Est-ce qu'il y a un sujet ? Là, je me tourne vers vous. Pour terminer en beauté, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas à intervenir, à pointer du doigt un sujet qu'on pourrait développer. Alors, allez-y.
Quelles idées pour développer le cyclisme professionnel ? Moi, j'en ai proposé une. Je suis fait renvoyer à 10 mètres, c'était donc les épreuves en descente.
Oui.
Mais je crois à l'imagination des fans du cyclisme. Je suis sûr que chacun a un plan B dans sa tête pour apporter quelque chose de neuf. C'est un peu ce qu'il disait là, Passeron. Il disait, c'est que des vieux qui gèrent notre vélo. Eh ben, il y a peut-être des auditeurs qui sont des jeunes, qui ont des idées et qui peuvent nous les suggérer à cette occasion. Allez, les mêleurs, mettez-vous au taf et on relaie.
Nicolas,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Un sujet peut-être à pointer du doigt, un sujet que vous souhaitez développer, Frédéric Millet peut-être ?
Non, par rapport à ce que dit Pierre, c'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'aimais bien et qui a un peu disparu, comme j'ai toujours préféré les courses d'un jour, c'est la Coupe du Monde telle qu'elle existait sur les courses d'un jour. Je trouve qu'il y a un mérite, il faudrait creuser un peu la chose pour essayer de la remettre en avant. Alors toujours pareil, moi mon exemple c'est toujours la Formule 1, essayer de trouver un rythme en dehors des grands tours qui resteront toujours, mais de trouver un rythme pour les courses en un jour et pour mieux mettre en valeur ces
davantage de visibilité en fait, de lisibilité
voilà,
plutôt.
De visibilité, alors ça va avec l'internationalisation.
J'ai eu du mal.
Mais par exemple là, ils veulent développer une course à Pékin au mois d'octobre. Vous avez vu la nouvelle épreuve Pro Tour qui va avoir lieu
oui,
à Pékin.
Oui.
Bon bah ils la font encore sur une course par étape de 4 ou 5 jours, je sais pas, en fin de saison. Moi, je trouve qu'il aurait été plus judicieux de faire un Grand Prix de Chine, un Grand Prix de Pékin, une course d'un jour avec des belles bosses et puis qui soit une préparation au championnat du monde ou sur le lendemain, une revanche. Enfin, essayer de redonner cette laisse de noblesse aux courses d'un jour et avec un fil rouge tout au long de la saison.
Non, Nicolas, moi, je serais beaucoup plus terre à terre. Et j'ai envie de dire, et ça fait maintenant 12 ans que je suis journaliste.
Et 12 ans déjà ?
Oui, ça fait 12 ans. Et en 12 ans, je n'ai pas vu une évolution dans l'esprit journalistique.
Alors quoi, vous êtes résigné ?
Non, je ne suis pas résigné. Je pense que si le monde journalistique, en tout cas dans le vélo, était un peu plus technique, peut-être qu'on aurait des managers qui, indirectement, seraient plus techniques et peut-être qu'on aurait d'autres résultats aujourd'hui. C'est simplement ce que je voulais dire. Voilà, et puis je pense qu'il ne faut, n'oublions pas Jean-Paul Brouchon.
Hein, moi, bien sûr, on allait en parler.
Ça fait 3 ans maintenant que cette émission existe.
Ouais,
et
ouais.
Je n'oublierai jamais son mot Ulrich n'était pas un grappeur. Ça, je n'oublierai jamais. C'était un bon moment d'une émission. Et puis la petite anecdote qu'il avait donnée avec Ino, avec son taureau après, c'était bien sympa. Donc une grosse pensée pour Jean-Paul.
Je suis content. Je suis vraiment, vraiment content, Nicolas Pertuis, que vous preniez la parole pour avoir une pensée pour Jean-Paul.
Mais Jean-Paul, on va le retrouver dans notre nouvelle émission. Si les mêleurs nous suivent et nous trouvent des idées, voire un sponsor, on va faire une radio au vélo, puis voilà.
En tout cas, moi, je voulais lancer un message, dire à Jean-Paul, évidemment, qu'on pense à lui. On aurait aimé partager cette émission qui peut être... Et la dernière
non,
avec.
Mais c'est pas, on refuse. Les mêleurs. Lis ce qui t'envoie les mêleurs.
Enfin, bon,
lis-le. Lis. Regarde. Vivement Carrément Vélo. Vive Carrément Vélo. Allez, il faut développer le cyclisme pour en France grâce à Carrément Vélo. Pour développer le vélo, il faut carrément foutre l'émission en prime time sur Eurosport.
Carrément
on
Vélo.
Est soutenus.
Ça,
on
c'est
est soutenus.
Sûr. On est soutenus et c'est grâce à vous.
Continuez.
Et c'est vrai. Et on tient également à vous.
Toute la semaine, s'il faut, pour la dernière.
À vous remercier parce que vous avez été nombreux à réagir et ce fut toujours un plaisir de partager, c'est vrai, cette émotion. Cette émotion, c'est vrai, cette émission avec vous. Mais juste un mot,
et
bien sûr, pour revenir.
Surtout.
Et avec l'ardoisier, avec Guillaume, avec avec Bruno, avec Armel, avec Julien, avec Pierre, bien sûr, avec Renaud, avec Philippe.
Avec Rico.
On va tous les citer. Il y a aucun problème. Ça peut durer longtemps comme ça. Charles également,
Armel,
qui nous a écouté. Clément également. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs.
Jean-Paul.
Et on tenait vraiment à vous remercier. Et tout ça pour dire qu'on pense à Jean-Paul Brochon, qu'on l'a pas oublié. On aurait aimé partager cette émission avec lui. Et toutes nos pensées vraiment vont vers lui. Je pense que Pierre, vous êtes d'accord pour souligner.
J'ai vu ce métier grâce à lui, arrête.
Bon.
Je vais pas en dire plus.
Allez, on va terminer. Il nous reste moins de 5 minutes. On va revenir tout de même à l'actualité. Juste, je vous propose de revenir un petit peu, un point sur l'étape du jour.
Oui.
Sur le Dauphiné, puisque.
Oui, Frédéric, l'étape du jour.
Ouais, un petit mot sur l'étape du jour.
Elle se termine donc en Chartreuse par une bosse de 7-8 km, je crois, aux alentours de 5%. Et moi, elle me fait penser à, je verrais bien une victoire française. Elle me fait penser soit à celle qu'avait gagnée Fédrigo au Critérium International. C'était une étape du Critérium International.
À Rizou.
L'étape de côte, hein,
d'Ospedal. C'est à Rizou, non ?
Non, oui. Et la deuxième chose, c'est celle que Vaugondi a gagnée à Rizou de l'an passé. Donc, Fédrigo, Vaugondi, ça peut être des cartes à suivre aujourd'hui sur cette étape. Mais... malgré tout, on va voir les gros qui vont être là. Moi, je suis curieux de voir sur ce Dauphiné ce que va donner la performance de Joachim Rodriguez, qui vient de terminer un Giro, on a vu, qui est éprouvant et qui est le seul parmi tous les grands du Giro. Il ne faut pas oublier qu'il a fait cinquième, qui va s'aligner sur le Dauphiné. Donc, je suis curieux de voir, pour prendre toujours les exemples de Nicolas par rapport à la préparation, ce que ça donne d'enchaîner un Giro et tout de suite après un Dauphiné.
On avait eu le cas avec Basso il y a deux ans. Basso qui avait fait quatrième du Giro et qui avait abandonné avant même la fin du Dauphiné.
Ouais. On va voir ce que va devenir Rodriguez.
On verra.
Pierre Salvec.
À propos de l'étape d'aujourd'hui, déjà je ne vais pas la manquer, c'est sur Eurosport. Hein,
c'est sur Eurosport, bien sûr.
Et France 2. France 3 en l'occurrence. France 3,
ouais. Oui, ce sera sur Eurosport pour moi. Et au moment où on s'apprête à boucler la boucle, il ne faut pas qu'on oublie quand même tous les techniciens là.
Bien sûr.
Parce que cette radio-là, nous, on est de ce côté du micro, mais de l'autre côté, là, il y a même des Gallois.
Il y a même des Gallois.
Qui font marcher la boutique.
Et on salue évidemment Spencer.
Et c'est grâce à eux si cette
François
radio a existé.
Également. On salue Maxence également. Rudy, on pense à Rudy
t'as
également.
On a l'impression d'être à la télé.
Oui, c'est vrai, on a l'impression d'être à la télévision.
Il ne demande plus que mes sons moins forts, et puis c'est bon.
Non. Ah, ça vous rajeunirait en tout cas, ça, Pierre Salvec, hein.
Ah bon?
Oui, non.
Mais il n'est pas mort, hein?
Non, mais vous, en l'occurrence, vous n'êtes pas mort.
Ah, mais moi, je leur survivrai.
Ah, vous pensez? C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas.
Non, l'étape de cet après-midi m'intéresse, oui, bien sûr. Parce que j'ai toujours dit que le Dauphiné, c'est un petit Tour de France. J'ai toujours vécu comme ça. La différence, c'est que sur le Dauphiné, en général, les étapes intermédiaires pour les journalistes étaient mieux arrosées. Bon, à part ça...
C'est tout ce que vous retenez du Dauphiné.
Bah, quand tu passes dans le Beaujolais, oui. Tu es obligé de t'en souvenir.
Frédéric Millet.
Et moi, je suis aussi curieux de voir ce que va donner le Belge Vandenbroek, là, qui est Vandenbroek.
Ah, Brock. Ne confonds pas Vandenbroek et Vandenbroek.
J'ai été surpris.
Il y a un mec qui a confondu Geldermans avec Geldermans.
C'est vrai. Mais j'étais surpris de voir que ce coureur n'avait encore jamais gagné une course depuis le début de sa carrière. C'est quand même quelqu'un qui a terminé 5e du Tour de France. Et donc, il va peut-être arriver à en claquer une, là, sur ce Dauphiné. Il sort d'un stage d'altitude, j'ai lu, d'un mois. Donc, c'est pour le coup.
C'est long, ça, un mois en altitude, Nicolas Pertuis.
Un mois en altitude. Et donc, il y a lui, puis il y a aussi Gesink, hein, qui, après un début de saison en fanfare, on va voir. Lui, il est tout jeune, il peut vraiment progresser. Et s'il si s'impose sur le Dauphiné, moi, j'en serais pas étonné.
Nicolas Pertuis.
Ouais, Gesink, je crois. Il a raison, Frédéric. Vandenbroek, Gesink, je crois que ce sont les deux coureurs à pointer pour un podium éventuel sur le Tour cette année. On les attend et ils ont montré des choses. Gesink, on l'a vu quand même en début de saison. Vandenbroek, on l'a vu aider Gilbert sur les classiques ardennaises et wallonnes. Donc voilà, ces coureurs sont là. Contador et Schleck devront composer avec et ça va donner du piment au Tour de France, ça c'est sûr.
Et ce Tour de France qu'on suivra
et Vauclair,
bien évidemment. Bah non, Vauclair il a un sentiment
qu'il Vauclair, il a dit qu'il
faut qu'il souffle aussi. Hein.
Non mais Vauclair il a dit qu'il a justement il considérait pas le Dauphiné comme une course de préparation et il va essayer de tout faire pour claquer une étape.
Bah, bien sûr et puis il a mais, tout intérêt. Il est
moi il y en
bien.
A un autre qui m'a épaté par sa performance hier même si c'était un prologue, c'est Vinokourov. Vinokourov il va être seul leader pour l'équipe Astana. Il a envie de partir en beauté, c'est son dernier Tour de France. Et c'est quand même un coureur assez imprévisible. Donc, apparemment, on va voir ce qu'il va faire sur ce Dauphiné. Parce que, bon, à mon avis, dans sa tête, il n'a pas perdu idée de faire une place au général, ouais. voire de remporter le tour. Et alors, il va vite être fixé, ouais. mais...
Remporter le Tour de France.
Ça serait un peu, oui, ça serait ouais. un peu spécial, mais bon, je ne suis pas sûr que dans sa tête, il ait abdiqué. Bon.
Lucien Aymar a gagné le Tour de France. Hein.
Allez messieurs, c'est la fin de ce Carrément Vélo. Il nous reste un petit peu moins d'une minute pour conclure. Je dis merci, bien sûr.
À lundi prochain. Si vous le voulez bien.
Pas sûr.
Ça, nos patrons.
Franchement pas sûr. Donc écoutez, en tout cas, on voulait
vous... Mettez-vous en stand-by quand même, on sait jamais.
Oui, on sait jamais, mais on voulait vous remercier.
Nous, on est là, nous.
Vous savez ce que je vous propose? On va essayer d'organiser une bouffe. On va essayer de te faire un bon repas, tiens, dans les prochaines semaines.
Vous êtes payé pour une fois?
Dans 15 jours. Et si jamais nos auditeurs qui nous écoutent actuellement
et nous envoient les fameux
souhaitent nous rejoindre pour partager un bon repas sur la région parisienne,
malade, toi.
On va essayer de mettre en place, de choisir un petit resto sympa. On va choisir
je connais
une date.
Un portugais en face du le lycée La Canale à Sceaux.
Je sais pas ce que
il
vous en pensez.
À 10 euros entrée, plat, dessert. Et il y a même le bacalao.
On va communiquer sur le mur Facebook. On va essayer de choisir une date. On va essayer de choisir un lieu. Je sais pas ce que vous en pensez, Nicolas
ouais,
Perfit. Avec Nicolas Perfit.
On s'apercevra que les journalistes ne sont pas que des alcooliques.
Voilà, avec Nicolas Perfit. Vous serez là également, Pierre Salviac.
Je serai en Crète.
Non, mais vous partez quand?
Le Tour de Crète à
vous
partir
de quand
mercredi prochain.
Bon, mais mercredi prochain, passe mercredi là.
Oui, l'autre.
Bon, on va essayer d'organiser ça avant, peut-être dans la semaine. Et Frédéric Millet sera avec nous également.
Ouais,
on fait
problème,
ça
moi, je suis là.
Et Spencer amène la bière?
Spencer amène la bière, sans aucun problème, il est présent. C'est la fin de ce Carrément Vélo. Merci à tous, à très vite. Mais non, à bientôt sur le www.rtl-l'équipe.fr ou ailleurs. À très vite.